En tout début d'après-midi, du travail qui a été mené au LDAR, le laboratoire didactique André Revuz, le laboratoire didactique de Paris 7, qui regroupe des didactiques des maths, de la chimie, de la physique et même maintenant la SVT, je crois. Alors, je vais vous présenter en quatre points l'esprit du travail, plus que le contenu, vu que d'une part, vous avez la publication et puis surtout les interventions de l'après-midi de demain matin vont être au cœur de des thématiques que l'on va aborder. Donc, oula, il y a un problème. Ah, un petit problème technique. Les images que j'ai ne correspondent pas. Donc voilà, c'est bon. Donc en fait, d'une part, le travail du LDAR sur l'analogie est un travail qui remonte à assez longtemps, dans la mesure où déjà il y a une vingtaine d'années, il y avait un travail qui était mené par Michel Artigues et André Delédic et qui pointait les difficultés d'usage de l'analogie par les enseignants en maths et qui en particulier citait le point de vue de Guy Brousseau sur le fait que l'analogie est un excellent moyen quand il est sous la responsabilité de l'élève. Mais que, par contre, les analogies deviennent plus aléatoires, et ce point sera abordé aussi demain, lorsque elles sont sous la responsabilité de l'enseignant. Donc, déjà dans le groupe CERMÉ, qui avait été piloté par Bernard Parziz, qui est un des collègues qui a travaillé sur ce thème-là dans notre groupe mathématiques et réalité. Dans le groupe CERMÉ, un certain nombre de questions étaient posées sur l'analogie et ou sur la métaphore. Et ce qui sont les trois premières questions, comment les enseignants peuvent recueillir et rassembler ces modes de pensée, quelle relation entre analogie produite par les élèves et celle proposée par les enseignants, et une question un peu didactique sur les conditions du recours aux analogies. Donc, ceci pour dire que cette préoccupation est une préoccupation qui remonte à un certain temps. Et en fait, le groupe mathématiques et réalité, qui regroupe non seulement des matheux, mais des chimistes, des didacticiens de la physique, donc qui associe plusieurs disciplines, avait depuis quelques années l'habitude de travailler sur des thématiques pour une durée de 2 ans. Et en 2013, en juin 2013, on a choisi de travailler sur l'analogie, qui était une question commune. Auparavant, il y avait un travail sur les exemples, et ces travaux ont toujours un peu la même forme, c'est-à-dire il y a un travail sur des textes, une étude de texte, une synthèse de texte, plus un regard critique, hein, soyons modestes, un regard critique sur ces textes. Alors, donc, naturellement, merci beaucoup. Merci. Naturellement, en faisant ce travail, en commençant ce travail, nous sommes un peu inspirés, plutôt nous avons décidé de partir de 2 ouvrages pour commencer à alimenter notre réflexion, qui étaient les ouvrages de Sander et Asfater sur l'analogie cœur de pensée et l'ouvrage sur l'analogie et dans la démarche scientifique qui avait été produite par le Labo Sphère quelques années auparavant et qui était un ouvrage centré sur des textes historiques ou des textes de didacticiens sur l'analogie dans ces différents domaines. Donc en fait, la première remarque, c'est qu'on a une variété de sources. C'est-à-dire, contrairement aux travaux antérieurs qu'on faisait, qui portaient sur des textes didactiques, là, il y a un peu un saut dans l'inconnu. Cette thématique qu'on a abordée, on n'avait pas de garde-fou, dans un sens. Et on a essayé de prendre l'analogie, se donner des outils pour que l'analogie, pour penser l'analogie, voir ses apports, ses fonctions, ses usages dans l'enseignement, et puis voir comment nos concepts dans chacune de nos didactiques pouvaient permettre d'éclairer les questions d'analogie qui étaient traitées avec d'autres concepts dans les champs considérés. Alors, vous avez entre les mains la publication, d'ailleurs c'est une excellente surprise. Merci Jean-Charles. Nous n'étions pas tout à fait... nous y attendions pas. Donc, dans la publication qui, en fait, émane un peu de... non seulement du travail individuel des uns ou des autres, mais surtout des échanges qu'on a pu avoir entre nous sur... pour affiner ces outils qui nous permettent de penser l'analogie. Donc, il y a des éléments qui vont porter sur un travail qui a porté sur les apports de la psycho, donc l'analogie de cœur de pensée d'Emmanuel et de Schwarzer, et puis aussi l'analogie du naïf au créatif, qui est un ouvrage qu'Emmanuel Sander avait produit 10 ans auparavant, et qui nous a semblé intéressant parce que il y a, alors je passe au ton contrôle, hein, bien évidemment, il y a notamment, alors non seulement un descriptif des méthodes et des théories sur l'analogie en psycho que je serais assez incapable de vous redécrire, mais surtout il y a une critique de la méthodologie et des... mais même des résultats obtenus dans la mise en place de protocoles autour de sources cibles. Et je trouve que cette critique, qui est extrêmement précise, qui porte sur les objets, sur les méthodes, est non seulement intéressante par rapport à certaines interventions que vous allez entendre et qui vont y faire d'une certaine façon écho, mais aussi intéressante pour nous en didactique, par rapport à un certain recul méthodologique qu'on doit avoir. Et puis, il y a 3 textes d'histoire des sciences dont on parlera très peu, parce que, en fait, bien évidemment, nous ne sommes pas des historiens des sciences, mais le regard sur les usages de l'analogie en histoire des sciences, soit dans les correspondances que pouvaient avoir des mathématiciens au XVIIe ou XVIIIe, c'est le cas de l'article de Knobloch, soit sur d'autres époques, et ça, je n'en dis pas plus parce que Marc y reviendra sans doute demain. En fait, ce regard nous a permis peut-être de préciser quelles étaient les fonctions de l'analogie en maths, et non pas simplement de faire des découvertes, disons schématiquement, mais je reviendrai sur ce point-là, les... fonctions de l'analogie, des fonctions à la fois des fonctions heuristiques, des fonctions de, explicatives et des fonctions de preuve, au moins dans l'histoire des maths au niveau du XVIIe, du XVIIIe siècle. Les articles que je cite qui sont en italique sont ceux qui vont vous être présentés cet après-midi et demain. Et donc, il y a aussi un aspect peut-être un peu plus nouveau dans notre travail qui a été d'insérer non seulement des études de texte, mais des comptes rendus expérimentaux, ou du moins des résultats expérimentaux, à partir de... qui ont pu être menés dans un certain nombre de contextes. Hein. Et en complément d'éléments de synthèse. Alors, peut-être, juste avant de présenter et de conclure les composantes des interventions, en fait, qu'est-ce que ça a pu nous apprendre un peu général? D'une part, le point que je citais sur l'apport de l'étude de travaux de psycho, c'est-à-dire l'analyse critique, par exemple, que j'évoquais à l'instant par Emmanuel Sander sur les modèles de psycho dans l'analogie du naïf au créatif. Et puis, la fonction de l'analogie en mathématiques, on voit qu'il y a plusieurs finalités. Je citais, heuristique, explication, preuve, que les objets de l'analogie dans le XVIIe ou XVIIIe siècle pouvaient porter sur des résultats, sur des méthodes. Par exemple, on peut avoir l'utilisation d'une méthode, sur une extension d'une méthode sur des objets mathématiques à des nouveaux objets mathématiques qui eux-mêmes ne sont pas encore définis. Marc reviendra peut-être sur cette question demain. Et une sorte de bascule d'un moment où on s'autorisait à utiliser des méthodes connues sur des objets qui n'étaient pas encore inconnus, qui n'étaient pas encore connus, à une recherche de définition des objets préalable à l'utilisation de méthodes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est à cette époque-là, quelles sont les justifications du recours à l'analogie. Et dans les écrits des mathématiciens de l'époque, les justifications peuvent être très générales, conception du monde, appui sur l'expérience, c'est-à-dire l'analogie marche toujours. Et elles peuvent être aussi des justifications qui portent sur des domaines scientifiques ou des analogies entre domaines scientifiques. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'aborder cette question, mais c'est une question qui s'est posée, par exemple, en physique au 19e, l'utilisation de modèles mathématiques dans les modèles physiques. Alors, les interventions cet après-midi, la première intervention va être celle de Vanda sur analogie en électrocinétique. Est-ce que les analogies constituent des appuis ou constituent des pièges? Et donc, ça va directement interroger le modèle source-cible, dont on a déjà parlé. La deuxième intervention cet après-midi va être de Marie-Pierre sur les analogies entre les pratiques socio-culturelles et l'enseignement, mais dans le cadre de l'ethnomathématique, c'est-à-dire en théorie dans le cadre de civilisations qui n'ont pas eu accès à l'écriture. Et troisième intervention, c'est l'analogie en l'utilisation des bases de numération de Laurent, où, en fait, Laurent va interroger les notions d'hybride, plutôt, Laurent a interrogé les notions d'hybridation et de marquage pour interpréter des processus d'analogie qui ont été produits en maths par des étudiants. Et demain, deux interventions, celle de Marc sur analogie, catégorisation, conceptualisation, et une intervention plus courte de Vanda autour des exemples d'Einstein, des analogies d'Einstein autour de la question du corps noir.